Je vous propose que l'on poursuive immédiatement avec la communication du professeur Pierre Bonin, professeur d'histoire du droit également à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, pour CUJAS dans les dictionnaires d'Ancien Régime. Cher Pierre, tu as la parole.
Monsieur le Président, cher Florent, je te remercie. Je veux également remercier la bibliothèque CUJAS de m'avoir permis, dans les fractions de secondes qui ont précédé l'ouverture de cette séance, d'imprimer le texte de ma communication. Imprimer une communication sur CUJAS à CUJAS. Il est des plaisirs qu'il faut savoir ne pas refuser. Et puis, je veux absolument remercier également Dario Mantovani, Alexandra Gottli et Xavier Prévost. Je ne suis pas entièrement convaincu de ce que sont les grands juristes. En revanche, il y a assurément de grands colloques et il y a de grands organisateurs, de grands colloques et de grandes expositions dans de grandes bibliothèques. Merci à vous pour tout ça. CUJAS, donc. Jacques CUJAS est un juriste français. Né à Toulouse en 1522, mort à Bourges en 1590, il a été professeur de droit. Son œuvre est à ce point considérable qu'un demi-millénaire plus tard, on la célèbre encore. Mais également participant à l'humaine condition. Jacques CUJAS, n'en doutons pas, a connu des joies et des souffrances qui sont le lot de chacun d'entre nous. Sa fille, dit-on, lui a causé des tracas. De cette personne, qui s'appelle donc Jacques CUJAS, je ne vais pas vous parler. Mon propos va porter sur toute autre chose, sur la projection de représentations sédimentées d'époque en époque, sur une fiction de juriste, sur un personnage de papier fabriqué. Ce Jacques CUJAS, dont nous parlons tous depuis deux jours, je vais essayer de le saisir au travers du dictionnaire, non pas de l'Ancien Régime, mon titre était trop ambitieux, mais seulement du XVIIIe siècle, de certains dictionnaires du XVIIIe siècle. Restreindre mon champ chronologique présente trois avantages. Le premier, c'est que je suis sûr qu'ils ont tous pu utiliser l'édition Fabreau des œuvres de CUJAS. Le deuxième avantage, c'est que le corpus est beaucoup plus cohérent comme ça. Les dictionnaires du XVIIe sont plus difficiles. Le troisième, c'est que j'ai évidemment manqué de temps. Ce corpus, je le détaillerai au fur et à mesure. Il réunit deux ouvrages de type encyclopédique, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, que je ne présente évidemment pas, et le 23 volumes pour la partie rédigée avec les suppléments, publiés de 1751 à 1780 en grand in-quarto. Et à partir du volume 3, à partir du moment où Boucher d'Argis remplace le traiterne Abbé Toussaint pour la partie juridique, il y a dans l'encyclopédie un véritable dictionnaire juridique, et puis il y a aussi d'autres choses autour. Et face à l'encyclopédie, je consulte le dictionnaire de Trévoux, qui est une œuvre pareille, construite par sédimentation. À partir de 1704, je consulte l'édition de 1771 en 8 volumes in folio. J'y ajoute 4 dictionnaires juridiques dont je pense pouvoir soutenir qu'ils sont les plus ambitieux et les plus intéressants pour le XVIIIe siècle. Le dictionnaire des arrêts de Brion, première édition 1711, j'utilise la deuxième édition de 1727 en 6 volumes in folio, le dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrières, qui se construit à partir de l'œuvre du père, Claude, et j'utilise une édition posthume de 1762. Jean-Baptiste Denisard publie à partir de 1754 une collection de décisions nouvelles. J'utilise une édition également posthume en 4 volumes de 1771. Et enfin, je me suis appuyé, non pas sur la seconde, mais sur la première édition du répertoire universel de jurisprudence dirigé par Joseph Nicolas Guyot. La seconde édition, celle qu'on utilise d'ordinaire, fait 17 volumes in quarto. J'utilise la première en 64 volumes in octavo. Donc, rien que pour les 4 dictionnaires juridiques, on a une masse d'une trentaine de gros volumes, in folio ou à peu près, sur 2 colonnes. C'est inenvisageable de traiter ce corpus-là à la main, par une lecture linéaire. Il a fallu automatiser le dépouillement, et ce n'est pas sans un certain coût qu'il faut énoncer, pour déjouer les biais. Seule l'encyclopédie a fait l'objet d'un travail de numérisation systématique qui garantit l'infaillibilité des recherches par mots-clés. Pour les autres ouvrages, je suis parti des meilleures versions PDF que j'ai trouvées, donc j'ai sacrifié l'intérêt de l'édition à la qualité de l'image que j'avais, mais évidemment, il peut y avoir des... Enfin, il y a nécessairement des ratés. J'ai tapé trois lettres, hein, CUI ou CUJ, mais je ne peux pas garantir que toutes les occurrences du nom de QJAS ou ses désinences latines aient été saisies. J'espère en avoir saisi, attrapé une quantité suffisante, représentative, pour tout vous dire, 383. L'arbitraire informatique, les erreurs, si vous voulez, de lecture automatique, font qu'il n'y a pas de biais quant à l'objet sur ce que j'ai saisi. Par ailleurs, j'avais un autre problème, c'est que certains des ouvrages que je consulte sont beaucoup plus volumineux que d'autres, ou citent plus QJAS proportionnellement que d'autres, et donc je risquais d'avoir un corpus déséquilibré avec certains auteurs qui y étaient ultra représentés. Et donc j'ai choisi ces auteurs qui sont... où QJAS apparaît plus souvent, j'ai choisi de les exploiter par sondage. C'est le cas de Brion. Je n'ai utilisé que le premier et le dernier des six volumes. Pourquoi le premier et pourquoi le dernier ? C'est pour déjouer le risque qu'il y ait au fur et à mesure de la construction de l'ouvrage, qui n'est évidemment pas alphabétique, mais quand même, qu'il y ait des évolutions dans la façon d'aborder les questions. Et puis pour le Guyot, j'ai procédé en consultant les premiers et deuxième volumes de chaque dizaine, donc les tomes 1, 2, 11, 12, etc., jusqu'à 61, 62 sur 64. Donc les données que j'ai extraites n'ont aucune solidité en termes de valeur absolue. Elles permettent de faire émerger un catalogue d'exemples, de comparer des proportions. J'appelle sur ma tête le bénéfice de la formule magique de protection pour tout chercheur qui fait de l'histoire quantitative, chiffre faux, tendance juste. Pour commencer et mettre en place quelques éléments de méthode, je vais parler du dictionnaire de Trévoux et de l'encyclopédie. Donc je ne parle pas de l'encyclopédie, mais Trévoux. On a eu tendance à constituer Trévoux dans une perspective dialectique par rapport à l'encyclopédie. Trévoux aurait été une sorte d'anti-encyclopédie. Et puis l'historiographie récente déconstruit cette approche-là, qui en fait est une approche qui vient des Lumières elles-mêmes. Pour qu'il y ait des Lumières, il faut fabriquer l'obscurité. Il n'est pas sûr que le projet de Trévoux, même dans les dernières éditions, et Trévoux, hein, c'est lié aux mémoires de Trévoux, etc., aux jésuites, il n'est pas certain que le projet de Trévoux ait été un projet anti-lumière, ne serait-ce qu'à l'époque de la dernière édition de Trévoux, il n'y a plus de jésuites en France, depuis 1762. Et on parle, à côté des anti-lumières, de quelque chose qui est beaucoup plus intermédiaire et beaucoup plus nuancé. On parle de christianisme éclairé, par exemple. Bon, je vais vite, j'assène sans démontrer, parce que l'heure tourne et qu'il faut qu'on parle de QJAS, mais si vous voulez, il y a eu une première époque où on a dit « Trévoux, c'est jésuite, donc c'est nul ». Et puis, il y a cette historiographie que je qualifierais volontiers de révisionniste, qui dit bah, « Finalement, Trévoux, c'est pas nul, donc ça doit pas être jésuite ». On pourrait poser la question de savoir si il n'y a quand même pas des éléments jésuites dans Trévoux. Si, il y en a. Arrivé à troisième formulation, Trévoux, c'est jésuite. Et Trévoux, c'est pas nul. Je voulais choisir le connecteur logique, mais et donc, entre les deux. Quoi qu'il en soit, le débat a souvent porté sur les emprunts, on va dire ça poliment, sur le plagiat. De Trévoux à l'encyclopédie, et particulièrement, il y a une étude informatique, hein, faite par des informaticiens, je veux dire, qui a chiffré à 5,32% la quantité de Trévoux qui est passée dans l'encyclopédie. Plus du 20e de l'encyclopédie, en fait, est pillée dans Trévoux, donc c'est bien la preuve que les encyclopédies n'ont rien inventé. Enfin, vous pouvez décliner la démonstration. Elle est évidemment absolument irrecevable. C'est pas parce que deux dictionnaires ont un contenu partiellement superposable, d'abord, que l'un a pillé l'autre. Ils peuvent très bien avoir tous les deux puisé à la même troisième source. Ou il peut y avoir un auteur intermédiaire. A a piqué à B et puis B a été pillé par C. On peut aussi citer pour se démarquer ou en déformant le propos. Donc il y a beaucoup de configurations qui font que la question n'est pas très pertinente. Et le point de méthode intéressant sur lequel je veux atterrir, c'est qu'en matière de dictionnaire, l'obsession de l'origine du contenu est finalement relativement faible d'un point de vue heuristique. Quand vous regardez une mosaïque, l'enjeu principal n'est pas nécessairement de savoir d'où viennent des pierres, une marqueterie, ce n'est pas l'essence des morceaux de bois utilisés qui forment l'essentiel. Évidemment que les dictionnaires puisent à toute main, à droite et à gauche. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, sous une couverture, on a considéré comme pertinent qu'un certain nombre d'informations soient réunies. C'est ça qui fait sens. Pour une lecture qui n'est pas une lecture linéaire, mais qui va être une lecture ponctuelle et répétée. Donc des successions d'impressions ponctuelles qui produisent à la fin, je crois, un effet. C'est ça qui est intéressant, l'effet produit. Quoi qu'il en soit, chez Trévoux, on a quelque chose qui est très, très déterminé par des grilles de lecture théologiques, une forma mentis qui est très éloignée de celle des juristes. Et pourtant, dans l'histoire de Trévoux, l'OCR a identifié 65 occurrences du mot Cujas, du nom de Cujas. Et sur ces 65 occurrences, pratiquement le tiers, 21, porte sur des questions d'étymologie, au point d'ailleurs qu'on arrive, on assiste parfois à un concours l'épine de l'étymologie, avec des racines supposées grecques, celtes, hébraïques, ou plus exotiques encore. Par exemple, le steliona désigne en droit romain une fraude, le terme peut être employé dans le sens générique, plus particulièrement la vente d'un bien immobilier que l'on a déjà engagé par ailleurs. Je citerai vous. Cujas dit que le mot vient de stelio, qui est une espèce de petit lézard extrêmement fin, de sorte qu'on appelle de son nom toutes sortes de doles et de tromperies, etc. C'est la première fois sur ces deux jours de colloque, je crois, que Cujas et Lézard sont associés. Mais Trévoux n'est pas le seul. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre du lieu commun. L'étymologie cujassienne du Steliona est reprise par Ferrière et par Denisa. Alors, évidemment, et tu l'as évoqué, Anne, souvent, l'opinion de Cujas en matière d'étymologie n'est pas seule donnée, hein, et on la confronte à l'opinion d'autres auteurs sur des questions qui peuvent être, sur des mots qui peuvent être des mots avec une forte connotation juridique ou qui n'ont absolument rien à voir, sanglier par exemple. Dans certains cas, il n'y a pas de résultat des courses. Dans d'autres cas, Cujas a ou n'a pas raison aux yeux des auteurs de dictionnaires. Bon, tu as évoqué tout à l'heure le terme d'échevin, c'est un excellent exemple. Alors, on n'est pas comme dans la monarchie espagnole à avoir une utilisation spécifiquement médicale ou théologique de Cujas, mais dans tous les cas, il est lu, utilisé, parfois dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le droit, l'étymologie, très au-delà du cercle des juristes. Bon, un exemple de choses, la façon dont ça fonctionne, c'est pas toujours très long, hein, c'est sur le mot sot, S-O-T. Ce mot, selon Cujas et Ancius, vient du syriaque sot, S-O-T-E, je suis désolé pour ma prononciation du syriaque, qui signifie fou. Mais selon Ménage, il vient de stolto, qui vient de stolidus, du cange dérive le mot de soutus, etc. Et à la fin, le dictionnaire de Trévoux se rallie à une étymologie celte. La proportion de références à Cujas pour des questions étymologiques demeure sensiblement importante dans l'encyclopédie. 85 fois, là c'est un chiffre exact, 85 fois le nom de Cujas apparaît dans l'encyclopédie. Dans 7 cas, c'est pour des questions de pure étymologie, et 5 de ces 7 cas étaient déjà dans le dictionnaire de Trévoux. Donc, c'est des points sur lesquels l'opinion de Cujas a visiblement un certain poids. Cette première impression d'un Cujas étymologiste est renforcée par d'autres mentions de son nom associées à des questionnements qu'on pourrait qualifier d'érudits, de pure érudition, sans enjeu immédiat pour le XVIIIe siècle, pour le droit du XVIIIe siècle, sur des notions qui peuvent être des notions évidemment antiques, mais qui peuvent être des notions aussi médiévales, j'aurais plutôt tendance à dire féodales et coutumières, sans prétendre distinguer les deux. Par exemple, vous avez des développements sur les jeux du cirque pour savoir si ce qu'on appelait le pancarpe et la silva, donc des simulacres de chasse au cirque, c'était la même chose ou c'était deux choses différentes. Il y a beaucoup de choses sur des officiers dans l'Empire byzantin, les fonctions de différents officiers. Bon, sur la différence entre... Ça, c'est dans Ferrières. La différence entre les eunuques et les spadones. Et si vous voulez vous renseigner plus avant, vous avez une page Wikipédia qui est très bien faite sur les nuances entre les deux. Je ne rentre pas dans ce détail-là, évidemment. Les opinions de Cujas ici font souvent autorité, même si elles peuvent être contestées, mais on reste dans des questions de pure connaissance. Parfois, simplement, Cujas semble avoir réglé un point de connaissance, et il est repris assez universellement. C'est le cas du statut de la concubine, ou l'avis de Cujas, que la concubine, c'est quand même nettement mieux qu'une simple maîtresse, même si le concubinat est finalement une forme d'union moins solennelle que le mariage. Cette opinion-là est reprise par tout le monde et semble faire l'unanimité. Il n'y a qu'un endroit, finalement, dans cette démarche que je qualifie d'érudition, où, véritablement, j'ai trouvé un pont établi entre les constructions savantes de Cujas et le droit positif pour mes auteurs de dictionnaire ou pour l'Ancien Régime, c'est dans l'encyclopédie, à l'article papier et parchemin timbré. Bon, je ne vous lis pas le passage, mais enfin, en gros, il y a une nouvelle, la nouvelle 44, dans laquelle Justinien interdit de découper les feuilles. Et on s'est interrogé sur le sens de cette disposition, et l'avis de Cujas semble recueillir l'assentiment général. Il y avait une sorte de marque, dit-il, de filigrane sur les feuilles, avec la date, et l'oiseau, dans le traité des offices, dit que finalement c'est extrêmement intéressant ce dispositif que Cujas a permis de mettre en évidence avec toute la révérence qui est due à Cujas, et que ce serait bien qu'on s'en inspire et qu'en France on ait aussi des textes officiels sur un papier filigrané avec une date pour déjouer les faux. Bon, autre chose, mais on est à un tel niveau de généralité que c'est quasiment plus juridique, l'opinion de Cujas sur la différence entre le marché et la foire, je crois que tu l'as cité, est reprise de nombreuses fois aussi. Pour autant, le savoir de Cujas n'a rien d'infaillible, et il y a des cas où, même sur des questions très précises, touchant Rome, enfin le cœur de son métier, il est battu en visière. Homo Galère, l'encyclopédie note. Quelques auteurs ont cru que la peine des galères était connue des Romains, entre autres Cujas, Paulus, Suidas et Joseph. La plupart sont fondés sur un passage de Valère Maxime, lequel, en parlant d'un imposteur qui se disait fils d'Octavie, sœur d'Auguste, dit que cet empereur le fit attacher à la rame de la galère publique. Mais cela signifie qu'il y fut pendu et non pas condamné à ramer. Finalement, il n'y a qu'un seul véritable point de pratique dans ces dictionnaires un peu généralistes, point qui touche au droit concret, au moins de l'époque de Cujas, qui est relevé, me semble-t-il, c'est la question de savoir si la veuve mineure de 15 ans est émancipée. Et le Trévoux dit, ben non, Cujas n'accorde pas, alors le garçon peut être, le fils de famille peut être émancipé, même s'il est mineur de 15 ans, Cujas n'accorde pas la même liberté à une veuve mineure de 15 ans, quoique émancipée par son premier mariage. On trouve un peu plus d'exemples vraiment juridiques et avec une portée pratique dans l'encyclopédie, mais c'est évidemment très limité. Cujas, à ce stade, apparaît, surtout dans l'encyclopédie et dans le dictionnaire de Trévoux, comme un étymologiste, comme un antiquaire. Il faut regarder, évidemment, maintenant, pour avoir des choses un petit peu plus concrètes, d'autres passages qui renseignent sur Cujas lui-même. On a des fragments sur la vie réelle ou rêvée de Cujas, et principalement dans l'encyclopédie, au mot « Toulouse », je te demande, pardon Florent, Cujas, le plus célèbre jurisconsulte du XVIe siècle, naquit à Toulouse en 1520. De parents obscurs, c'était un de ces génies rares et heureux qui apprennent tout de même et qui l'enseignent merveilleusement aux autres. Toulouse ne connut point son mérite, elle lui préféra un indigne compétiteur pour la chaire de droit, etc. Puis après, il va à Bourges. Bon, c'est assez bref, hein, y a une petite dizaine de lignes. Et on a dans ces dictionnaires-là, ici et là, cette espèce d'éléments folkloriques qui participent à la légende de Cujas. On l'a cité, vous l'avez cité hier, il travaillait couché. Alors, pour avoir le renseignement dans l'encyclopédie, il faut consulter la notice Waldeck. C'est un bourg allemand dans lequel il y avait un théologien qui travaillait couché comme Cujas. Les armes de Cujas à Mantelé, les armes de Cujas d'azur à la tour couverte d'argent, Mantelé et chapé de même, ou chapé de même. Au mot délibéré, Trévoux reprend une phrase qu'on trouve partout, alors pas forcément dans les dictionnaires, mais qu'on trouve partout, Google vous en apportera la démonstration. Monsieur Cujas avait délibéré, au cas qu'il mourût sans enfant, de donner son bien à Scaligère. Bah, le brave Cujas. La formule est de Jean Colomiès. C'est cité par Trévoux. Jean Colomiès, qui est un érudit protestant, hébraïsant, du XVIIe siècle, qui a fini sa vie en Angleterre. Mais la formule complète, la citation complète, « Monsieur Cujas avait délibéré de donner son bien à Scaligère, mais jamais celui-ci n'en vit rien. » Et vous voyez comment se construit la légende en coupant et en faisant des ajustements avec la vérité. D'autres remarques plus louangeuses sont développées à différents endroits et qui participent au culte du docte Cujas. Et ici, je me rallie à l'opinion qui a été émise tout à l'heure pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle surtout, l'opinion qui a été émise tout à l'heure par le docte Pfister. Le terme docte est ici laudatif, je pense. Donc Cujas, le plus grand jurisconsulte de son siècle, mais juste après vient Charles Dumoulin, qui s'appelait jurisconsulte de France et de Germanie. Cujas a été un célèbre professeur de droit civil, enfin il y en a tout un nom, une petite liste. Au mot chapeau, Pasquier remarque en ses recherches qu'en beaucoup d'universités d'Allemagne, lorsque les professeurs nomment Turneb ou Cujas, tous les auditeurs ne manquent jamais de mettre la main au chapeau. Tant est grand l'honneur et le respect qu'ils portent à leur mémoire, j'ai ouï dire que dans l'université de Bourges, on fait la même chose pour Cujas. Donc vous voyez qu'aux Jeux olympiques du droit, catégorie jurisconsulte, Cujas mérite un certain nombre de médailles, enfin en tout cas on les lui accorde. Au titre de l'anecdote aussi, on peut signaler que dans quelques cas, Cujas semble avoir souhaité fixer une terminologie, par exemple pour les extravagantes de Jean XXII, il aurait aimé qu'on les appelle les Janines, sur le modèle des Clémentines, mais je ne crois pas que son usage ait pris. La seule appréciation, je la récupère d'entre vous, la seule appréciation dans ces éléments un petit peu biographiques que je trouve dans mes dictionnaires sur véritablement sa méthode est la suivante, au mot conciliateur. En jurisprudence, on appelle conciliateur des antinomies un auteur qui a travaillé pour concilier les lois qui paraissent se contredire. Cujas est un grand conciliateur des antinomies. Il est en revanche un point dans l'homme, la présentation de l'homme Cujas, sur lequel les dictionnaires sont unanimes et assez prolixes, c'est sa qualité en tant qu'éditeur et commentateur de sources anciennes. Je n'en dresse pas la liste, mais enfin, ça forme une masse relativement conséquente et très généralement assorti de commentaires extrêmement positifs dans le corpus que j'ai constitué. Le seul point sur lequel, ici, Cujas, éditeur et commentateur de texte, est parfois discuté, c'est qu'on lui reproche quelques corrections un peu hasardeuses. Mais bon, c'est parfois pardonnable, c'est par exemple le cas pour l'explication de la très obscure règle catonienne, que je ne me risquerai pas à essayer de définir. S'il y a donc un Cujas à l'usage des non-juristes, il faut regarder aussi du côté des dictionnaires juridiques pour saisir quelque chose qui est plus de l'ordre d'un profil doctrinal. Alors, ces quatre dictionnaires, je les ai évoqués brièvement tout à l'heure. Il y a Brion. Alors, Brion, je renvoie à André-Jean Arnaud. Il est à la charnière. Il n'a pas encore assimilé toutes les conséquences du basculement cartésien. Il n'est pas encore systématique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique du recueil de lieux communs. Donc, on peut avoir dans Brion des affirmations contradictoires entre elles, parce que c'est un stock d'arguments dans lequel on va puiser en fonction des besoins de la cause. Et Brion est extrêmement utile également parce qu'il reproduit parfois des plaidoyers de lui ou d'autres. Donc là, pour le coup, on peut saisir des éléments d'un Cujas utilisé in situ dans les prétoires. Au total, 102 références à Cujas. Je rappelle que je n'ai consulté que le tiers du Brion. L'encyclopédie, c'était 85, et Trévoux, 65. Deuxième dictionnaire proprement juridique, c'est Ferrière. Ferrière, c'est un professeur de droit romain. C'est une approche beaucoup plus savante. 56 occurrences du nom de Cujas, Ferrière étant un militant en faveur du droit romain. Il a des opinions souvent très tranchées de ce point de vue-là. Troisième auteur, c'est Denizard, 24 mentions seulement, mais Denizard est un praticien, c'est un procureur au Châtelet. Il n'a pas, je crois, de formation juridique, il s'est formé simplement par la pratique. Je ne suis pas sûr qu'il soit latiniste, et souvent d'ailleurs, quand il se réfère à Cujas, c'est au travers de quelqu'un d'autre. Tel auteur cite sur ce sujet Cujas, etc. Et puis, le répertoire de Guyot, je n'ai donc consulté que 14 volumes sur 64. On a un extrait, 51 références à Cujas, le répertoire de Guyot, le testament juridique de l'Ancien Régime. Peut-être pourrait-on saisir tendanciellement une baisse très relative des références à Cujas sur un court XVIIIe siècle, mais bon, la qualité de numérisation des ouvrages, et puis la tonalité propre de chaque auteur ou directeur fait que on ne peut pas finement le déterminer. Et plus que les valeurs absolues, ce sont les contextes de mobilisation des références qui sont intéressantes. Alors, je vais essayer peut-être de répondre à ta question, Anna-Maria, sans donner de chiffres, parce que j'en suis pas sûr, mais un peu quelque chose de l'ordre de l'impression sur le poids relatif des domaines du droit pour lesquels on se réfère à Cujas. Il y a d'abord un Cujas spécialiste de droit féodal et coutumier, hein, je refuse de distinguer les deux, le Cujas des livres des fiefs. On l'a vu avec l'étymologie et l'érudition pure, on le retrouve sur des notions plus précises, la gastis qui désigne les dommages causés par les bestiaux dans la coutume d'Angoumois, l'indir, ce sont des droits seigneuriaux en Bourgogne, bon, voilà, des choses comme ça, des choses aussi beaucoup plus générales, tu l'as dit également Anne, pour définir ban, pour définir fief, on a recours à Cujas. Évidemment, ce sont les ouvrages les plus portés à l'abstraction et à la systématique, Ferrière et le Guyot, qui ont cette utilisation de Cujas, beaucoup plus que ceux qui sont plus focalisés sur la pratique et qui, après tout, s'intéressent moins à l'origine des choses. Le seul endroit où la méthode véritablement humaniste pourrait être saisi ici, c'est à propos du Douaire, tu l'as évoqué, mais pas de chance, c'est un point sur lequel Cujas, faisant du Douaire le prix de la virginité, n'a pas du tout retenu l'assentiment de la communauté des docteurs. Il y a un autre point sur lequel l'avis du docte Cujas et du judicieux Coquille, hein, j'ai les deux, le docte Cujas et le judicieux Coquille, un autre point sur lequel un avis en matière de droit coutumier a une portée très, très pratique, c'est quand une rente foncière est due par un terroir sur lequel on cultive des blés de valeurs différentes. Le crédit rentier n'est pas fondé à réclamer que la rente soit versée en quantité de blé de la meilleure qualité, mais on ne doit pas non plus lui imposer la plus mauvaise qualité, il doit accepter une qualité intermédiaire. Ça, c'est plusieurs auteurs le citent, mais partir en brillant, et il ajoute, ce qui renvoie bien à cette réalité purement instrumentale des usages de Cujas, « Je l'ai ainsi décidé en consultation et un arbitrage pour les chanoines de Guise, etc., un procès particulier. » Bon, l'avis de Cujas est le bon parce qu'il me rendait service quand je plaidais cette cause. Toujours en matière féodale et coutumière, l'instrumentalisation de Cujas, elle est peut-être portée à son paroxysme par le romaniste féroce, militant, fanatique, Claude-Joseph de Ferrière. De temps en temps, il va définir une notion féodale en ayant recours à Cujas, et généralement, il va mobiliser chez Cujas, non pas les livres des fiefs, mais des ouvrages de droit romain, c'est-à-dire qu'il éclaire le droit coutumier ou le droit féodal par le droit romain, et je ne cite qu'un passage, c'est au mot coutume. Monsieur Cujas a dépeint tous les défauts des coutumes en deux mots, en disant que dans les coutumes, il y a plusieurs choses qui se contrarient et qui sont destituées de toute raison, parce qu'elles ont été composées en partie du droit coutumier et en partie des sentences des praticiens ignorants, qui n'ont ni règles, ni méthodes, etc. Bon, là, c'est tiré des livres des fiefs, et puis suit en latin la citation de Cujas qui vient d'être paraphrasée. Donc, s'il existe véritablement un Cujas coutumier, féodal, qui n'emporte pas de façon systématique l'assentiment, mais qui est important, il y a surtout un spécialiste du droit romain, et c'est là massivement quand même qu'on retrouve les emplois de Cujas, et particulièrement les emplois dans une perspective qui a des enjeux en termes de droit positif, même si c'est surtout au travers des pays de droit écrit. Dans cette masse qu'est le droit romain, on peut essayer de distinguer des sous-ensembles. Un biais que j'énonce ici, c'est que n'ayant consulté que par sondage Guyot et Brion, je risque d'être un peu déterminé par les lettres, et donc par les mots, par certains mots. Par exemple, j'ai consulté la lettre T, le cœur de mon démonstration, c'est testament. Mais pourtant, je crois quand même que c'est pas complètement faux. Le testament occupe une place très importante dans les usages qui sont faits de Cujas, dans les références qui sont faites à Cujas. Pourquoi ? D'abord, je sais, de façon certaine et absolue, et je vais le prouver, que le droit successoral occupe une place particulièrement importante dans l'œuvre de Jacques Cujas. Et ici, argument d'autorité, je procède à l'ostension de la thèse de Xavier Prévost. Quand il veut étudier Cujas romaniste, Xavier Prévost va chercher le droit successoral. Et particulièrement peut-être dans le droit successoral, les testaments. Alors, Cujas est cité des dizaines et des dizaines de fois. Et particulièrement dans les plaidoyers, c'est ça qui est intéressant. Brion, particulièrement dans les plaidoyers, cite de Cujas sur des multitudes d'aspects. Bon, je développe pas tout. La clause dérogatoire, j'y reviendrai peut-être. Les témoins pour un codicille, la question de savoir si le droit applicable à une succession, c'est celui du lieu du testament ou du lieu des biens concernés. Les testaments au sein d'une fratrie. Il y a plein de questions sur le testament holographe, particulièrement la présence de témoins. Et là, il est dit très clairement que l'opinion de Cujas l'a emporté sur celle de tous les autres interprètes. La carte trébellianique, les testaments pour Cospi, les testaments des gens de guerre, les testaments des religieux, les testaments des aveugles, tu en as parlé, les testaments des furieux, les droits du légataire, les devoirs de l'institué quand il y a une substitution, la transmission des substitutions, le legs pour une cause qui s'avère être fausse, l'interprétation, l'équité dans la lecture d'un testament, etc., etc. Tout ça pour le seul Brion, et pour la seule question des testaments, étant entendu qu'il en parle au mot testament, mais qu'il en parle à plein d'autres endroits. Alors il y a peut-être un biais, peut-être aussi que Brion s'est particulièrement intéressé à titre personnel à la question des testaments, ou que quand il a consulté Cujas, il s'est particulièrement intéressé à ce point-là et qu'il a moins consulté d'autres passages de Cujas. Je ne pourrais le déterminer. Il n'empêche que, quand même, je crois que Cujas fait vraiment référence sur le testament, sur le droit successoral. Bon, c'est absolument odieux, hein, ces listes que je fais, donc je vais vous les épargner, mais croyez-moi sur parole, tous les autres auteurs parlent aussi moins, mais quand même beaucoup, 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 de Cujas à propos des testaments et plus généralement à propos du droit successoral. Ça ne veut pas dire qu'ils en parlent toujours en bien, et tu l'as remarquablement mis en évidence avec ta sagacité ordinaire, Anne. Juste un exemple, c'est pris dans Brion à propos des testaments, c'est à propos d'une affaire spécifique. Je vais demander à nos amis italiens ici de boucher leurs oreilles pendant quelques secondes. Le problème est de savoir si l'auteur d'un testament peut apposer une clause dérogatoire, c'est-à-dire dire « si je fais un autre testament et qu'il n'y a pas telle formule dedans, il ne sera pas valable ». Voici ce que dit Brion. « L'usage des clauses dérogatoires est-il puisé dans les sources du droit civil ? N'est-ce, au contraire, qu'une invention des docteurs ultramontains ? » Poser la question, c'est évidemment y répondre. « C'est un problème qui donne lieu à la dispute de l'école. Les livres sont pleins de lieux communs qui fournissent à cette dissertation inutile. » Et là, on a une liste d'ouvrages et d'auteurs, dont Cujas. Paradoxe, on est quand même en train de mettre Cujas dans le camp des barthelistes. Et puis après, il est fait mention d'une nuance que propose d'apporter Cujas entre les clauses dérogatoires entre la dérogation de pouvoir, où on s'interdit à l'avenir de faire une chose, et ça, c'est pas possible, et la dérogation de volonté. Licite est favorable, puisque chacun peut se prescrire des règles pour fixer l'état de sa volonté. Bon. L'on n'ignore pas la critique de M. Cujas, qui attribue ces termes, ceux du droit romain qui sont discutés, à la main téméraire de Trébonien. Mais Ricard observe fort prudemment que si l'on se donne la liberté d'imputer à Trébonien ce qui déplaît dans le droit, il n'y a plein de lois que nous ne puissions pervertir, toute la science de cette matière si brouillée par les docteurs, etc. Et là, deuxième paradoxe, on met Cujas dans le camp des anti-tribonianistes, alors que d'ordinaire, on le crédite plutôt d'avoir été assez positif quant à la qualité du travail de Trébonien. Je pourrais faire, avec des quantités moindres, mais je pourrais faire des développements tout à fait comparables sur quantité d'autres pans du droit romain, tous les pans du droit romain, dans des proportions variables, mais toujours importantes, font l'objet, quand ils sont abordés, ces différents pans du droit, font l'objet de références à Cujas chez mes auteurs de dictionnaires juridiques. Et parfois, son opinion l'emporte. C'est le cas, par exemple, pour le double lien. C'est dans le cas de des droits successoraux de frère Germain, c'est par rapport aux demi-frères, hein, les frères consanguins ou les frères utérins, ça leur donne des droits successoraux plus important face aux oncles et aux enfants des oncles. Bon, là, il y a une opinion de Cujas qui, semble-t-il, fait l'unanimité et qui est citée par Denisard, par l'encyclopédie, par Guyot. Je vous passe la démonstration parce que tout ça va finir par être extrêmement lassant, mais j'ai des pages et des pages de listes, simplement de questions de droit, de thèmes juridiques, tout l'ensemble du droit privé romain. On peut trouver Cujas qui est utilisé et de façon significative, même si le droit des successions me semble avoir la prime. La question qu'on pourrait poser en retour, c'est quand est-ce que Cujas n'est pas utilisé ou peu utilisé ? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références à Cujas pénalistes, quelques-unes relativement peu, parfois plutôt sur des questions d'érudition. Pas grand-chose sur Cujas canoniste. Il y a un Cujas canoniste, mais c'est un petit Cujas. Ce n'est pas un grand juriste, le Cujas canoniste. Bien que l'encyclopédie indique qu'il a commenté les second, troisième et quatrième livres, presque en entier, des décrétales de Grégoire IX. Pas grand-chose sur la procédure, ou très peu de choses. Peu de choses sur le droit de son époque. Tu as évoqué, Anne, tout à l'heure, l'édit des mères. On a aussi une appréciation de Cujas qui est citée sur l'édit des secondes noces de 1560. Mais peu de choses. Quelques éléments pour situer hiérarchiquement, par rapport à leurs homologues romains, enfin par référence à leurs homologues romains, certains corps, les prévôts des maréchaux, les notaires, les avocats, bien sûr. C'est encore cité dans des dictionnaires du XVIIIe siècle. Cela étant, cette méthode de conférence des fonctions du XVIe siècle aux fonctions de l'Antiquité, est quand même largement surannée au XVIIIe siècle. Plus personne ne construit au XVIIIe siècle la hiérarchie sociale comme ça. Et qu'est-ce qui manque pour le prince de l'humanisme juridique dans ces différentes mentions de Cujas que j'ai pointées dans les dictionnaires ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque l'humanisme juridique. C'est ça qui est le plus étonnant. La méthode spécifique qu'incarne Cujas n'apparaît pas dans les usages qui en sont faits. Il est réduit, c'est déjà pas mal, hein, et ça fait de lui un grand juriste, mais il est réduit à être un stock très abondamment utilisé dans une vue, je rejoins, comme toujours, bien sûr, Anne Rousselet-Pimon, dans une vue très pratique, c'est un stock de références bibliographiques, éventuellement d'étymologie, de définition, d'éclaircissement érudit, d'opinions doctrinales qu'on peut mobiliser et qui ont beaucoup de poids. Il a une autorité qui pèse. Et d'ailleurs, même quand on n'est pas d'accord avec lui, il semble qu'il vaut mieux dire qu'il en a parlé pour le réfuter, parce qu'autrement, on s'exposerait à une contre-attaque violente. Néanmoins, je cite Anne, il est plus question de résultats que de méthodes. Dans les usages faits de son œuvre, entre l'érudit et le praticien, il n'y a aucune place pour le penseur du droit. Sous cet angle-là, Cujas semble avoir apporté des réponses à des questions qui n'intéressent plus du tout au XVIIIe siècle. Or, le constat, pour une part, tient sans doute à la forme des dictionnaires. La façon dont j'ai travaillé sur Cujas m'a donner l'impression de travailler sur les présocratiques. Hein. Par fragments, on acquiesce quelques pièces du puzzle, mais très peu, et reconstituer le schéma d'ensemble, c'est très hasardeux. Mais je crois quand même que les choses vont plus loin, il faut que j'achève, me dit le président, car dans d'autres cas, pour d'autres auteurs, on a quand même des opinions, des argumentations qui sont bien développées, leurs présupposés sont donnés. Des auteurs un tout petit peu postérieurs, hein, une génération et demie. L'école du droit de la nature et des gens, elle a droit à des pages et des pages entières. Enfin, les présupposés sont exposés. Ce n'est jamais le cas pour l'humanisme juridique. Il y a un paradoxe de Cujas. En faisant sortir du droit romain, en particulier de l'intemporalité, en le contextualisant, il a fait progresser de façon incomparable les connaissances, et en même temps, il a contribué à relativiser et à historiciser son propre savoir et ses propres questionnements, en les réduisant à ne plus informer le présent que dans une faible part, quasi exclusivement génétique. Il y a, je crois, dans cet enfermement, dans l'érudition, une leçon à entendre pour toute démarche d'histoire du droit, le risque qui a été évoqué hier, hein, de n'être réduit qu'à une perspective légitimante d'emploi du passé. Il nous appartient peut-être de trouver des solutions pour sortir de ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Cujas. Je vous remercie.